Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Mathura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Apis mellifera mellifica, une chronique spéciale Noël. Bonjour Gaël.
Bonjour Lisa.
Des contes, je crois.
Oui, je vous propose pour la dernière chronique de 2020, deux contes. Deux contes sur les abeilles, bien sûr. Donc on va commencer par un conte un peu à l'humour noir. Et puis on finira par un conte malgache un petit peu plus optimiste.
Alors on dit, qui est-ce qu'il a écrit le conte à l'humour noir et grinçant?
Eh bien c'est votre animatrice de Rucher École préférée.
Donc toi.
Donc c'est moi, voilà. Et avant de vous raconter ce conte, je voulais quand même, parce que je ne l'ai pas fait cette année... remercier tous les partenaires techniques et financiers qui permettent l'existence du Rucher École. Donc évidemment, il y a la région, il y a le conseil départemental, la mairie de Caylus qui nous met à disposition le terrain et qui nous prête la salle des fêtes. Donc un grand merci vraiment. Et puis notre partenaire préféré, c'est CFM, qui nous permet de diffuser la connaissance sur l'abeille.
Alors là, j'applaudis des deux mains.
Alors, ce premier conte, eh bien, il s'appelle « Une pointe d'humour ». À l'aube d'un jour nouveau, sur la planète Terre, tout au fond d'un trou. Mais attention, pas n'importe quel trou. Une cavité bien orientée et bien protégée par une écorce épaisse, accrochée à un haut et grand tronc, pilier d'un arbre vibrant de vie. Donc, un trou, où si l'auditeur curieux peut y jeter un œil, il découvrira une colonie d'abeilles mellifères battant le rythme des saisons. Et bien justement, de saisons, il est question, puisqu'en ce jour, nous étions le dernier jour de l'hiver, juste avant le premier jour de printemps. Et comme depuis les millions d'années que l'abeille sillonne le monde, il était une tradition que les insectes respectaient à la lettre. La transmission d'une mémoire bien particulière. Voilà comment se déroulait cette confidence. La plus vieille abeille encore vivante en ce jour, une abeille d'hiver qui était donc née à l'automne, imaginez-vous donc, presque 5 mois d'existence. Une immensité pour un insecte. Mais il s'agit là d'une autre histoire. Donc, la plus vieille abeille racontait à la plus jeune abeille, celle à peine sortie de son alvéole, ayant encore les ailes un peu collées et les antennes à peine dépliées, un secret bien gardé. « Vois-tu, fit la vieille abeille, en tapotant doucement les antennes de la jeune. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que les abeilles communiquent en s'envoyant des petits jets de parfum qu'elles capturent et décodent avec leurs incroyables antennes. « Vois-tu, répéta la vieille, je vais te confier le secret le plus recherché des humains. » « Ah oui, c'est vrai, tu ne sais pas ce que c'est qu'un humain. » « Oh là là, ne t'inquiète donc pas, dit-elle, quand elle vit la jeune abeille froncer les antennes d'incompréhension. « Tu les reconnaîtras très vite. Ils sont très grands, très bruyants. Ils produisent d'étranges vibrations par leur bouche et même par leur... ça, tu le découvriras par toi-même. Je ne t'en dis pas plus. » La vieille abeille décrivit en détail les membres, les habits, la façon de se déplacer, le mode de reproduction et la biologie de ces bipèdes peuplant les 5 continents. Ce dont tu dois bien te rappeler, ma chère jeune sœur du printemps, c'est que les humains ont à leur disposition de grandes capacités. Mais ils ont également développé de terribles défauts. Et nous, abeilles, devons subir leur orgueil et leur impatience. Depuis des temps très anciens, ils ont compris la richesse incomparable de notre travail. Ils convoitent la moindre miette de notre labeur. La cire, la propolis, la bouillie de la reine et bien sûr notre miel. Ces humains ont donc décidé de braver nos défenses et de trouver mille astuces pour nous soutirer le fruit de nos efforts. Je dois bien t'avouer qu'ils y sont parvenus. Plus ou moins bien au fil des âges, mais ils ont quand même fini par progresser. Ils ont mis du temps, mais désormais, ils parviennent à nous soutirer nos trésors sans nous tuer. Oh oui, tu peux hocher la tête, c'est effectivement un grand progrès. Ils ont tout essayé sur nous, tous les types de ruches, d'abris. Ils nous ont fait voyager à travers le monde. Ils nous ont soumis à des tests, nous regardent les gènes et même tiennent des livres sur notre pédigrée. Tu vois donc comme ils sont déterminés à nous casser les pattes pendant encore des siècles et des siècles. Comme si on n'en avait déjà pas assez d'avoir les varois sur le dos. Il nous faut aussi supporter ces grands dadés de mammifères en combinaison blanche. Alors, jeune abeille, écoute-moi bien, car voici ce que les humains ignorent. Depuis des années, et grâce à nos mâles capables d'entrer dans n'importe quelle colonie, et porteurs ainsi de messages révolutionnaires, nous nous sommes organisés en front de libération de l'abeille mellifère. Veux-tu un exemple ? La jeune abeille, très intéressée, se frotta le thorax en signe d'acquiescement. La vieille abeille se rapprocha de la jeune et communiqua à antenne basse pour n'être entendue d'aucun humain. L'hiver, alors que les humains se réchauffent et attendent les beaux jours pour venir nous mettre au travail, nous organisons notre fuite. Avec l'aide des colonies voisines, nous décidons un jour de disparaître de la ruche que nous avait assignée l'apiculteur. Nous attendons le moment propice où il n'y a ni œufs ni couvain à s'occuper. Nous portons cette grosse feignasse de reine qui n'a pas la force de voler et nous prenons la poudre d'escampette en silence. Bien sûr, cette fuite a été préparée de longue date. Nous avons construit un autre nid, organisé d'autres rayons de cire et emmagasiné des réserves de miel et de pollen dans des sites hautement secrets. Ensuite, nous attendons de voir la réaction de l'apiculteur. Et là, ma chère, mais quelle rigolade ! Quelques abeilles espionnent, le surveillent et viennent ensuite nous raconter. Imagine donc la scène. Voici l'apiculteur qui ne nous a pas surveillés de tout l'hiver, qui croit que nous n'avons attendu que sa venue. Au fur et à mesure où il s'approche, il ne voit aucune butineuse sortir. Il n'entend aucun son. Et lorsqu'il ouvre enfin la ruche, il en reste bouche bée et l'œil fixe. Ah non, mais quelle blague ! J'en ai l'hémolymphe qui bouillonne. Imagine-toi que nous nous sommes aperçus que pour résoudre ce mystère, les humains se mettent à écrire des livres, des articles sur Internet. Ils mettent des caméras dans nos ruches. Mais hé, on n'est pas stupide. On sait ce que c'est un bouton marqué « on-off ». On m'a même rapporté qu'ils se disputaient très fort entre eux, s'accusant les uns les autres. Les amateurs accusent les professionnels. Les partisans de la ruche horizontale maudissent les adeptes de la ruche d'Adam. C'est la faute aux produits chimiques, disent-ils. D'autres accusent le varroa de nous affaiblir. D'autres encore accusent les médicaments contre le varroa de nous affaiblir. Va comprendre un peu leur logique à ces benets. À mourir de rire, je te jure. Et je pourrais aussi te raconter comment ils se disputent sur l'importance de nos reines, du nombre de spermatozoïdes, de la vitesse des flagelles. Ah oui, j'allais oublier. Certains invoquent aussi le changement de climat et les sécheresses ou la pluie. Bref, une vraie foire d'empoigne. Depuis que nous avons commencé ces bonnes blagues, nous ne pouvons plus nous en passer. Je crois bien que bientôt, nous allons concentrer tous nos efforts pour leur faire croire que nous sommes en train de disparaître pour de bon. Et là, on va s'en payer une bonne tranche. Moi, je ne pourrais pas le voir, mais j'imagine très bien ces millions de ruches vides, le plus gros canular de toute l'histoire depuis la création de notre race. Et alors que la vieille abeille vivait ses dernières secondes d'existence dans une ultime et dernière hilarante anecdote racontée à la jeune abeille, j'ouvris soudainement les yeux, me frottai les paupières en regardant autour de moi. Mince ! Je m'étais endormie sous ce grand arbre et je venais de rêver que la disparition et les torts causés à l'abeille n'étaient pas de notre responsabilité. Croyez-moi, j'aurais tellement, tellement préféré que ce soit une blague de nos abeilles. Et cette histoire est finie.
Et on retrouve la prochaine, juste après la musique, dans cette chronique Apis mellifera, mellifica, la dernière de ce mois, de cette année 2020.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme nous fredonne de vieilles mélodies. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme nous fredonne la vieille mélodie. À la faveur de l'automne, tu me donnes à ma mélancolie ces couleurs de superscopie. Voici la vérité nue. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mette, il ne trouve d'appuyer. Et j'aurais vraiment tout perdu. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un.
Deuxième conte, donc c'est un conte malgache, à l'origine du miel et du commerce. Lorsque le ciel et la terre ne formaient qu'un seul tout, l'abeille, comme la mouche et tous les êtres animés, vivaient avec Dame Nature. Quand Dame Nature eut séparé le ciel de la terre, elle demanda à l'abeille de choisir le travail qui devait lui assurer sa nourriture quotidienne. L'abeille répondit : « Je ne sais que tresser de fines dentelles de cire avec lesquels je fais mes rayons. Cela suffit à mon activité et je gagne facilement ma vie. Dame Nature lui laissa ce moyen d'existence. Mais elle recommanda à l'industrieux insecte de toujours travailler consciencieusement. L'abeille se mit à la besogne et fabriqua tant et tant de dentelles de cire qu'en très peu de temps, elle réalisa de gros bénéfices par la vente de ces objets magnifiques. Son trafic prospéra tellement que beaucoup d'animaux voulurent l'imiter. Personne ne réussit à l'égaler, car nul n'avait l'art et la patience de cette habile ouvrière. Un jour, l'abeille se rendit au ciel pour demander à Dame Nature où elle devait déposer le miel qu'elle fabriquait. Celle-ci lui répondit « N'as-tu pas le talent de dresser de jolies dentelles ? Fais-toi donc une petite maison avec de nombreux compartiments. Tu habiteras les uns et tu y déposeras tes œufs et dans les autres, tu pourras y mettre tes magasins de dépôt pour conserver ton miel. » Munie de ces conseils, l'abeille revint sur la terre et se mit aussitôt à l'œuvre. Elle eut vite fait de construire une ruche dans le tronc creux d'un vieil arbre. Elle divisa l'intérieur en plusieurs étages, garnie d'une infinité de cellules. Quand tout fut terminé, elle alla butiner, de fleur en fleur. Après avoir aspiré le nectar de chacune d'elles, elle venait le déposer dans les compartiments vides destinés à cet usage. Elle eut bientôt une grande quantité de miel. Presque toutes ses alvéoles en étaient remplies. Mais cette nouvelle industrie ne lui avait pas fait négliger le tressage des dentelles, auquel elle consacrait tous ses loisirs. Aussi en était-elle toujours abondamment pourvue. Les hommes affluaient chez elle, non seulement pour acheter des dentelles de cire, mais surtout pour se procurer le bon miel odorant qu'elle fabriquait. Son commerce devint si florissant et sa maison si bien achalandée que l'abeille s'enrichit rapidement et réalisa en peu de temps une énorme fortune par la vente de ses produits. Mais sa prospérité croissante engendra bien des jalousies et lui créa un nombre d'envieux. Hélas, la jalousie et l'envie ne tardèrent point à se changer en haine féroce. Au lieu de lui acheter, comme par le passé, son miel et ses dentelles, on ne venait plus chez l'abeille que pour lui ravir, par force ou par ruse, le produit de son minutieux travail et de sa patiente industrie. L'abeille s'en plaignit à Dame Nature et sollicita aide et protection. Mais Dame Nature ne voulut pas lui accorder le secours qu'elle réclamait. Elle répondit donc à l'abeille. « Mon impartialité me commande de ne pas intervenir en ta faveur, bien que tu sembles avoir raison. Je suis trop loin de toi pour voir et apprécier le mal qu'on peut te faire et pour te porter secours à chaque fois que tu en seras en danger. Tu sais bien que je ne dois plus m'occuper des différends qui pourront exister entre les animaux. Défends-toi donc comme tu le pourras, je t'en donne le droit. » Désolée de n'avoir obtenu que cette demi-satisfaction et de n'être pas protégée d'une façon plus efficace contre les tentatives hardies de ses agresseurs, l'abeille redescendit tristement sur la terre et trouva, oh malheur, tous ses rayons saccagés et dépourvus de leur miel. En son absence, sa demeure avait été pillée et ses biens enlevés. Devant le désespoir de l'abeille, Dame Nature, apitoyée, lui dit « Ne te désole pas outre mesure, tu pourras bientôt réparer tes dégâts et recommencer ton travail, car tu es habile ouvrière. Pour ta défense, je te donnerai une arme acérée qui, si elle ne fait pas fuir les voleurs, te servira à leur faire des piqûres brûlantes et à leur causer des douleurs lancinantes. Cela les fera hésiter à venir te soustraire le fruit de ton labeur. » Elle la munit d'un aiguillon défensif. Autrefois, le commerce était inconnu. Ce fut donc l'abeille qui la première le pratiqua et l'apprit au reste du monde habité. C'est pourquoi, depuis ces temps reculés, l'homme enlève le miel de force, malgré les protestations de l'abeille, et il n'a comme punition que les piqûres que cet insecte impuissant ne peut se défendre autrement. Ce deuxième conte est achevé.
Un conte malgache admirablement bien lu par Gaëlle Mathura, donc l'animatrice du Rucher pédagogique de Caylus. On n'a pas beaucoup parlé des actualités du Rucher, mais bah, c'est comme ça, on est en décembre, on se retrouve en janvier.
C'est ça, au mois de janvier, à bientôt.
Merci Gaëlle.